On va de suite ouvrir la parole de Dieu ce matin. Il ne vous a certainement pas échappé que dans une semaine, c'est Pâques. Et souvent, lorsque nous approchons de Pâques, nous faisons référence à certains événements qui ont eu lieu quelques jours avant Pâques. Et si je vous disais qu'est-ce qui serait passé il y a une semaine avant Pâques dans les évangiles, qu'est-ce que vous répondriez? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, les rameaux, lorsque Jésus est entré effectivement à Jérusalem sur un ânon, donc les gens, la foule, coupaient des branches d'arbres et les mettaient sur le chemin où Jésus passait. Donc on fait souvent référence à cela, où la foule était dans une grande joie et acclamait, disait « Hosanna au fils de David ». Et puis Jésus montait à Jérusalem. Et là, alors que la foule est en liesse, dans la joie, eh bien lui, Jésus, pleure. Il y a un contraste là qui est là, il pleure, voyant cette ville de Jérusalem et sachant les ravages et les drames qui vont s'y passer parce qu'elle ne sait pas que elle n'a pas connu le temps où elle a été visitée. Donc ça, c'est un événement, j'allais dire, important qui s'est passé quelques jours avant Pâques, mais il y en a eu d'autres. Qu'est-ce qui s'est passé encore? J'entends pas bien d'ici, excusez-moi, vous parlez un peu plus fort. Bon, il y a le lavement des pieds, on pourrait citer celui-là aussi, hein, qui s'est passé juste avant la Pâque, un événement important où Jésus nous a laissé un exemple, lui, le Maître et Seigneur, qui a lavé les pieds de ses disciples. Donc il y a différents événements, on pourrait parler aussi du fait que les Israélites enlevaient, faisaient disparaître tous les levains qui pouvaient exister dans leur maison avant la fête de Pâques, où il y avait cette fête des pains sans levain qui était liée aussi à Pâques. D'ailleurs, l'apôtre Paul, faisant référence à ça, dira dans les Corinthiens, « faire disparaître le vieux levain ». Et l'apôtre Paul prend cette image pour nous faire comprendre une réalité spirituelle dans notre vie, où il nous faut faire disparaître ce levain, la méchanceté, il parlera de cela, et puis il y a ces levains. Jésus nous a dit de nous méfier, par exemple, du levain des Hérodiens, des pharisiens, donc voilà, il y a tout cela. Mais juste pour amorcer notre message de ce matin, il y a un événement aussi qui s'est passé le même jour où Jésus est monté à Jérusalem, sur cet ânon où la foule était dans la joie, où Jésus pleurait en s'approchant de Jérusalem. Et il s'est passé un événement juste après ça, lorsque Jésus est entré dans le temple, un événement assez violent, il faut le dire, il faut le reconnaître, où lorsque Jésus est entré dans le temple, il a vu là tous les changeurs, ceux qui vendaient les animaux pour être sacrifiés. Et Jésus a renversé ces tables-là, et les tables des vendeurs de pigeons, il y avait les changeurs, etc. Donc il y avait là tout un commerce qui était fait, et Jésus, d'une manière assez brutale, a renversé tout cela, il a mis en désordre tout cela, et il a dit « Vous avez fait de la maison de mon père une caverne de voleurs, et cette maison est appelée à être une maison de prière pour toutes les nations. » Alors, ça, à chaque fois avant Pâques, il faut bien se dire qu'une partie du temple se transformait en marché, hein, ce que nous, on pourrait appeler aujourd'hui les marchés de plein vent. Alors, pourquoi cela? Eh bien, parce qu'à Pâques, il y avait des sacrifices qui étaient faits en souvenir du sacrifice qui s'était passé lors de la sortie des peuples d'Israël d'Égypte. Et donc, on vendait des animaux selon la prospérité des gens. Certains achetaient des pigeons, d'autres achetaient des animaux un peu plus chers, selon la prospérité de chacun. Et en fin de compte, c'était, au départ, on peut s'imaginer que c'était pour une raison pratique que les choses étaient faites ainsi, puisque les animaux allaient être apportés aux sacrificateurs. Il s'était mis vraiment très proche du temple, même dans le parvis du temple, là, comme si là, les gens venaient au temple, achetaient leur animal, et puis après l'apporter au sacrificateur. C'était utile, on pourrait se dire, ça certainement et probablement commencé par une notion d'utilité, mais ce qui, au départ, était fait pour être utile, pratique, facile pour tout le monde, eh bien, était devenu un business et surtout un lieu de trafic, un lieu de vol, une caverne de voleurs, un lieu où on peut s'imaginer qu'il se faisait un peu de concurrence entre le marchand un tel, le commerçant un tel et puis son concurrent là, qui peut-être... elle n'avait pas les mêmes tarifs, et puis on peut s'imaginer que le pigeon qui était pesé, il fait 1,2 kg, mais en réalité il faisait pas vraiment 1,2 kg, il faisait 1 kg. Vous voyez, c'était du vol. Donc on voit bien que là, eh bien, il y avait beaucoup de trafic qui se faisait, de cupidité, et on comprend pourquoi Jésus a renversé tout cela. Et avec cette introduction, j'aimerais voir avec vous ce que Jésus renverse dans nos vies. Il y a des choses que Jésus peut renverser dans nos vies, et il peut le faire aussi d'une manière énergique. En tout cas, nous savons et nous connaissons l'impact de la parole de Dieu dans notre cœur, et parfois cette parole, elle nous secoue au plus profond de nous-mêmes. Elle est énergique, cette parole. Elle est puissante, cette parole. Et autant la parole de Dieu peut être comparée à une rosée qui se dépose sur l'herbe, et c'est vrai que la parole de Dieu apporte beaucoup de douceur, de consolation, mais aussi nous savons que la parole de Dieu peut avoir un effet révolutionnaire dans nos cœurs, où elle va renverser bien des choses, et j'aimerais voir avec vous quelques points à ce sujet ce matin. J'aimerais juste faire une lecture dans la deuxième épître de Paul au chapitre 10, deuxième épître de Paul aux Corinthiens, excusez-moi, où il y en a plusieurs, épître de Paul. C'est pas comme Pierre qui a fait que deux épîtres. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 10, et au verset 4. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu, pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Ici, nous avons dans ce passage un des aspects du ministère de l'apôtre Paul. Et au verset 8, il dira « Et quand même, je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et notre pour votre destruction, je n'en saurais avoir honte. » Et il est vrai que cette dimension du ministère de l'apôtre Paul était de renverser ses forteresses. Et quelle arme avait-il ? Si ce n'est que la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu qui agissait au travers de son ministère et qui agissait dans les cœurs. Et là, il parle de forteresses, il parle de raisonnements qui sont appelés à être renversés et des hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Ces choses-là, et j'allais dire que les plus grandes des forteresses, elles ne sont pas dans des bunkers qui peuvent exister en béton armé, mais les plus grandes forteresses, elles sont dans nos cœurs. Et ces forteresses-là sont comme des citadelles dans lesquelles, eh bien, nous pouvons nous réfugier. Mais ces citadelles-là, le Seigneur veut les renverser. Avec quelle arme spéciale, eh bien, les enfants d'Israël ont-ils renversé les murailles de Jéricho ? Qu'avaient-ils ? Avaient-ils des catapultes pour projeter leurs boulets, leurs projectiles sur les murailles de Jéricho? Nullement. Avaient-ils des canons? Il n'y en avait pas à l'époque. Ils avaient des trompettes. Ça peut sembler curieux. Et ils ont tout simplement eh bien, obéit à ce que le Seigneur leur avait dit de faire le tour de la ville, eh bien, dans le silence, et avec aussi les sacrificateurs qui devaient sonner des trompettes. Et puis, une fois que les murailles, eh bien, se sont écroulées, bien sûr, là, ils se sont servis de leur épée pour s'emparer de cette ville. Il y a des forteresses dans notre cœur, dans nos vies, qui sont semblables à cette ville de Jéricho, où seule, j'allais dire, la trompette de la parole de Dieu, puisque on voit qu'il y a des analogies à faire entre la trompette et la parole de Dieu, on le voit dans certains livres de la parole, eh bien, cette parole de Dieu qui sonne dans nos cœurs comme des coups de trompette, eh bien, va détruire ces citadelles, va détruire, eh bien, ces Jéricho qui sont là, ces raisonnements, il est question de raisonnement, il est question de pensée, il est question de ces forteresses que le Seigneur va détruire. Et la plus grande destruction, le plus grand renversement qui s'est opéré dans nos vies, elle s'est opérée par la prédication de la croix. Par la prédication de la croix. La croix a tout renversé dans notre vie. Notre façon de penser, notre façon de vivre, notre mentalité, nos comportements, tout cela a été renversé par la prédication de la croix le jour où nous avons cru en ce message. Or, l'apôtre Paul dira encore aux Corinthiens, dans la première épître, au chapitre 1er, verset 23, que cette prédication de la croix, lorsqu'il prêche Jésus crucifié, cette prédication de la croix, elle est vue comment ? Elle est vue comme une folie, effectivement. Elle est vue comme une folie pour les Grecs de l'époque. Il parle des Grecs parce que les Grecs, c'était, j'allais dire, les sages selon ce monde de l'époque. Et nous avons tous ces philosophes de la Grèce antique qui ont marqué l'Antiquité, mais qui encore aujourd'hui, leurs enseignements sont encore perpétués. Et lorsque Paul est arrivé à Athènes, il y avait ces philosophes qui étaient là, il y avait les épicuriens, il y avait les stoïciens, et ils passaient leur temps à discuter entre eux, à philosopher entre eux. Et lorsque Paul est arrivé avec le message de l'Évangile, ils se sont dit, mais quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ils n'avaient jamais entendu parler de cela. Alors ils ont convoqué Paul à l'Aréopage et Paul leur a exposé l'Évangile. Est-ce que Paul leur a parlé de politique? Non. Est-ce que Paul leur a parlé de philosophie? Non. Il leur a parlé de ce Dieu qui est le créateur de toutes choses. Et il leur a parlé du jugement à venir. Et quand ils ont écouté Paul et quand il leur a parlé de la résurrection, ils se sont moqués de Paul. Vous voyez, c'était considéré comme une folie pour les Grecs. La prédication, encore aujourd'hui, est considérée comme une folie pour certains grands penseurs et certains intellectuels de ce monde. Elle est considérée comme une folie, comme méprisable pour beaucoup de nos contemporains. Et il dira, non seulement elle est une folie pour les Grecs, mais c'est un scandale pour les Juifs. Vous voyez, il y a encore un raisonnement, vous voyez, c'est un raisonnement, quand on parle de folie, c'est un raisonnement, quand on parle de scandale, c'est que ça choque la pensée de quelqu'un. Or, les Juifs, avec tout leur arrière-plan religieux, où il y avait ces sacrifices animaux, où là, lorsque Paul annonce la croix, le Fils de Dieu qui a été crucifié, mais c'est un scandale pour eux. Et ils se heurtent à cela, ils se heurtent à cela, comme nous nous sommes heurtés, nous aussi, pendant un temps, à ce message de l'Évangile. Mais lorsque nous y avons cru, ça a renversé des raisonnements en nous. Ça a renversé des raisonnements en nous. Il y a les logiques humaines, il y a les pensées de la chair, il y a les pensées de ce monde qui s'élèvent comme des hauteurs devant la connaissance de Dieu et qui cachent, qui camouflent, qui occultent la connaissance de Dieu. L'apôtre Paul en parle dans Romains, chapitre 1er, ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste, même à l'œil nu, lorsqu'on les considère depuis la création. Mais ayant connu Dieu, ils ont plutôt adoré la créature, ils ont adoré des faux dieux. Ils ont adoré des faux dieux. Babel, c'est la tour de Babel, c'est une belle image de cette hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Un acte de rébellion déjà, un acte de révolte contre Dieu, dès le départ. Comme quoi le déluge n'a pas changé les choses parce que ça se passe dans le cœur de l'être humain. Peu de temps après le déluge, On pourrait dire, mais maintenant, tout va redémarrer à zéro, tout va être bien. Non, parce qu'en fin de compte, ça se passe dans le cœur de l'être humain. Et là, sous l'impulsion d'un homme, Nimrod, il y a eu cette tour de Babel qui a été construite. Alors que Dieu avait dit à l'être humain de se répandre sur toute la terre et de multiplier, de remplir la terre, eux, ils ont fait le contraire. Ils ont voulu vivre tous au même endroit. Alors ils se sont construits une tour immense. Mais ce n'était pas simplement, j'allais dire, le fait de vivre ensemble. Il y avait là quelque chose de spirituel aussi, puisqu'on sait que ces tours qui étaient appelées des ziggourats servaient aussi à l'adoration des divinités. Et il voulait ainsi construire une tour immense, voulant s'approcher des divinités et rendre un culte aux divinités de l'époque. Là encore, on voit que c'est une connaissance qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Que reste-t-il de Babel ? Que reste-t-il de Babel ? Il y a ainsi des raisonnements, il y a ainsi des hauteurs qui sont comme des forteresses, qui sont là, et c'est pour cela que c'est difficile d'amener une personne à la foi. Et on pourrait se dire, mais nous maintenant qui sommes dans la foi, nos forteresses ont été détruites, nos raisonnements qui sont des raisonnements, uniquement des raisonnements d'hommes, uniquement peut-être des raisonnements charnels, tout ça, ça a disparu de notre vie. Ce n'est pas si évident que ça. Il reste encore parfois certaines de ces hauteurs, certains de ces raisonnements qui se lèvent contre la connaissance de Dieu et qui nous empêchent de nous épanouir pleinement dans la foi et de vivre pleinement notre foi en tant que chrétien. Alors que Pierre venait de déclarer par l'Esprit de Dieu que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, quelques minutes après, il va prendre Jésus à part. Ah, Pierre, il est sûr de lui, là. Ah, Pierre, il est grisé un peu parce que, voilà, il a dit quelque chose de bien, il vient de dire quelque chose de bien, mais il a oublié que c'est par l'Esprit de Dieu qu'il a oublié, qu'il a dit ça. Et lorsque Jésus apprend à ses disciples qu'il va mourir à Jérusalem, qu'est-ce que fait Pierre ? Il va prendre Jésus à part. Ouais, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Qu'est-ce que va lui répondre Jésus ? Une parole très gentille. Mais alors, vraiment, qu'est-ce que va dire Jésus à Pierre ? Arrière de moi, Satan ! Ouf ! Jésus, quelques minutes avant, peut-être même pas cinq minutes avant, vient de lui dire, tu es heureux, Pierre, fils de Simon de Jonas, eh bien parce que ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais l'Esprit de mon Père. Et là, arrière de moi, Satan. Quel contraste. En si peu de temps, parce que tes pensées ne sont que des pensées des hommes. Oui. Il y avait encore quelque chose à renverser dans le cœur de Pierre. Il y avait encore quelques raisonnements qui n'étaient pas des raisonnements spirituels dans le cœur de Pierre et qui avaient besoin d'être renversés pour que Pierre puisse pleinement comprendre qui est Jésus et pourquoi il était venu. Nous avons besoin, nous aussi, que certaines forteresses, certains raisonnements, certaines hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu s'abattent dans nos vies. Et à cause de ces raisonnements, il y a certains aspects de la vie spirituelle, certains aspects de cette connaissance de Dieu qui nous échappent, qui ne nous sont pas encore révélés parce que nous sommes à l'intérieur de nos forteresses et que parfois nous ne voulons pas eh bien, en sortir. Nous savons que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Nous le croyons, nous le disons, nous le confessons. Mais dans la réalité, parfois, lorsque nous sommes face à un défi, il y a des raisonnements en nous qui s'élèvent à ce moment-là et qui nous amène, mais je ne vais pas y arriver. Pourtant, on vient de dire que Dieu est tout-puissant. Et à celui qui croit, tout est possible à celui qui croit. C'est écrit, oui ou non ? Mais comme nous sommes face des fois à des blocages, lorsque nous sommes face à des défis devant nous, mais c'est impossible. Et pourquoi on dit que c'est impossible ? Parce qu'il y a un raisonnement. On voit les choses de notre point de vue. Nous avons besoin aujourd'hui, plus que jamais, d'une démonstration d'esprit et de puissance. Ces forteresses-là, ces raisonnements, ces hauteurs ne pourront pas s'écrouler, ne pourront pas être renversés sans cette démonstration d'esprit et de puissance. Pour renverser l'incrédulité, pour renverser l'idolâtrie, pour renverser les puissances des ténèbres et les puissances de l'occultisme, il nous faut aujourd'hui une démonstration d'esprit et de puissance. Lorsque Philippe l'évangéliste est arrivé à Samarie, il y avait là auparavant, dans cette ville de Samarie, un homme, Simon le magicien, qui faisait beaucoup de magie et qui étonnait beaucoup la foule par, entre guillemets, les miracles qu'il pouvait faire. Et lorsque Philippe est arrivé dans cette ville de Samarie, il a prêché l'évangile de Christ, et là, il y a eu des miracles, des gens ont été guéris par la puissance de Dieu, ils écoutaient le message de l'évangile. Il a prêché la croix, il a prêché Jésus. Mais il y avait une confusion terrible, qui était un raisonnement, qui était une forteresse dans les cœurs de ces gens de Samarie. Lorsqu'ils voyaient Simon le magicien faire ces soi-disant miracles, ils étaient tellement stupéfaits, tellement séduits, qu'ils disaient, ces Samaritains, celui-ci, la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. Vous voyez la confusion. Voilà un homme qui faisait ses miracles par la puissance des ténèbres, par la puissance de Satan, par la puissance des démons, et les gens disaient, ça vient de Dieu. C'est une forteresse. Comme on entend encore aujourd'hui certains qui parlent de certains sorciers, de certains médiums, de certains occultes, qui font des choses, qui guérissent les blessures, qui enlèvent les verrues et qui font tout un tas de choses, qui guérissent les malades. Waouh ! Celui-là, je l'ai déjà entendu, en tout cas, il a son don de Dieu. C'est un raisonnement. C'est une déduction, comme quoi vous voyez les déductions que l'on peut faire par rapport à certaines apparences, sans chercher à comprendre les choses, ces déductions-là nous amènent à avoir un raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Dieu. C'est une confusion, c'est une fausse déduction. Mais il nous est dit, lorsqu'ils crurent à Philippe, alléluia, ça a disparu. Sauf dans le cœur de Simon, il y avait un fiel amer. Mais les gens, à ce moment-là, à l'écoute du message de l'Évangile et voyant la différence dans les miracles qui s'opéraient entre Philippe et Simon, les magiciens, alors là, ce raisonnement-là a disparu. C'est pour cela que je dis qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'une démonstration d'esprit et de puissance au milieu de nous. Jésus-Christ n'est-il pas toujours le même ? Il est toujours le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Et ces faux raisonnements qui sont là, s'ils ne sont pas renversés, ces forteresses, si elles ne sont pas renversées, ces hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, qui nous empêchent de croire pleinement que Dieu est tout-puissant, qu'il nous aime, de croire pleinement que Dieu est amour, de croire pleinement que Dieu est fidèle, ces faux raisonnements-là qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu nous polluent jusque dans notre vie de prière et conditionne nos prières et elle limite même nos prières. C'est évident. Si on ne connaît pas Dieu comme il faudrait le connaître, quand on s'approche de lui dans la prière, qu'est-ce qu'on va lui demander ? Là, ce que nous allons lui demander va être dans la mesure de ce que nous connaissons de Dieu et de ce que nous pensons de lui et dans la mesure qu'il te soit fait selon ta foi. Mais si notre foi est étouffée, si notre foi est limitée par ces raisonnements que nous avons en nous, alors nous n'allons pas oser de demander certaines choses au Seigneur. Nous n'allons pas avoir cette audace de la foi pour demander certaines choses au Seigneur parce que ces faux raisonnements vont nous bloquer. Et on va se cacher en disant « c'est pas la volonté du Seigneur ». Parfois, on utilise ça comme excuse, pas toujours, mais parfois, en disant « ah ben c'est que c'était pas la volonté du Seigneur ». Sauf que dans la réalité des faits, c'est que nous avons manqué de foi. Et pourquoi nous avons manqué de foi? Parce qu'il y a des raisonnements en nous. Le Seigneur nous donnera ce dont nous avons besoin. C'est une certitude. Occupons-nous premièrement du royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses nous seront données en plus. N'est-il pas écrit qu'on ouvre à celui qui frappe, qu'on donne à celui qui demande, et que celui qui cherche, il trouve? C'est écrit. Et nous voulons, bien sûr, croire tout ce qui est écrit. Et lorsque cette parole de Dieu arrive dans notre cœur, ça renverse tous ces faux raisonnements, ça renverse toutes ces pensées qui sont là, parce que nous sommes amenés à mieux connaître le Seigneur. Le Seigneur renverse encore aussi ces fausses illusions, ces fausses espérances que nous avons dans nos cœurs et qui aussi nous polluent, qui aussi conditionnent notre manière de vivre. Nous avons des fausses espérances que nous exprimons même dans nos prières, mais qui ne sont pas à la lumière de la parole de Dieu, non seulement qui ne sont pas objectives, qui ne sont pas réalistes, mais qui ne sont tout simplement pas dans la volonté de notre Seigneur. Ça peut nous déstabiliser sur le moment lorsque ces fausses espérances, ces fausses connaissances sont renversées. C'est comme un chamboulement dans notre vie. Il faut alors reconstruire quelque chose, avoir de nouveaux repères. J'aimerais parler encore d'autres choses que le Seigneur a renversées, qu'il veut encore renverser. Et je vais lire avec vous un texte dans Éphésiens. Tout à l'heure, une sœur a lu un texte dans Éphésiens, chapitre 2. Je vais lire la suite de ce texte au verset 11, Éphésiens 2, verset 11. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation et l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau en établissant la paix, et de le réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. On pourrait continuer ce passage extraordinaire, et on verrait à la fin que l'apôtre Paul dira que nous sommes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Quel est le problème ici? Eh bien, il y avait dans cette église, comme dans beaucoup d'églises de l'époque, une partie de l'église qui était d'origine juive et une autre partie qui ne l'était pas. Or, certains fonctionnaient encore sous le modèle de la synagogue, tellement imprégnés de leur culture, soit d'origine juive, soit d'origine grecque, tellement imprégnés de leur culture qu'il leur a fallu du temps pour comprendre qui ils étaient en Christ. Or, il n'y avait pas de chrétiens de première zone et de chrétiens de seconde zone. Mais dans la réalité des faits, il y avait une séparation qui était là. Or, l'apôtre Paul leur dit bien que Jésus est notre paix et qui des deux n'en a fait qu'un, il a renversé le mur de séparation. Ainsi, il a renversé le mur de séparation, l'inimitié, car il y avait une inimitié qui était bien réelle. Mais en Christ, cette inimitié disparaît par la croix. Non seulement la croix nous réconcilie avec Dieu, mais la croix apporte une réconciliation possible, une communion possible avec les autres qui sont différents de nous. Et en Christ, il n'y a plus de séparation, il a renversé la barrière, il a renversé la séparation des races. Il a renversé la séparation des conditions sociales entre hommes et femmes aussi. L'apôtre Paul dit par ailleurs qu'il n'y a plus ni homme ni femme, il n'y a plus ni juif ni grec. En Christ, il n'y a plus ni esclave ni libre, ni barbare ni scythe. Sur ces quatre expressions, il y aurait beaucoup de choses à dire. Il y a une vingtaine d'années, j'assistais à une conférence au Canada. Il y avait là un pasteur américain qui avait été invité et il parlait d'une réalité qui se vit aux États-Unis et qui vraiment était pour lui un fardeau qui était difficile à vivre. Et il dira, dans notre pays, sur les stades de football américains, vous avez les blancs et les noirs qui jouent ensemble et les supporters blancs et noirs qui se supportent les uns les autres et qui font tout pour que leur équipe gagne. Mais le dimanche matin, les blancs prennent leur voiture et vont dans leur église de blancs, et les noirs prennent leur voiture et vont dans leur église de noirs. Curieux. Qu'on arrive à s'entendre sur un terrain de foot, mais pas dans l'église. Vous allez me dire, c'est aux États-Unis. Mais on a des églises ethniques en France. Que faut-il en penser? Alors, ça, ces avantages, on pourrait dire qu'il y a des atouts, parce que parfois il y a la barrière de la langue, on ne se comprend pas. Mais pour la plupart, pour beaucoup, à part les primo-arrivants, ils parlent français très rapidement. Ce n'est donc pas une raison valable. Pour l'évangélisation, oui, ça peut se concevoir. Mais dans la réalité des faits, comment on ne peut pas s'entendre dans l'Église alors qu'en Christ, nous sommes un? N'a-t-il pas enlevé le mur de séparation et l'inimitié? Bon, c'est un problème qui existait déjà dans l'Église primitive. Il y avait des conditions sociales qui faisaient que certains... Mais Jésus a renversé tout cela. Il y avait les esclaves et les maîtres à l'époque. Ça ne date pas simplement de l'époque coloniale. On voit que déjà à l'époque, il y avait des esclaves. Et ce n'était pas si évident que cela. Donc on le voit dans certains textes de l'apôtre Paul, dans certaines épîtres, on le voit que ce n'était pas si évident que cela, ce rapport entre maître et esclave, lorsque ces maîtres et ces esclaves étaient tous convertis à Jésus-Christ. Dans certains pays, on le voit, il y avait les maîtres qui allaient à l'église, et puis les esclaves, ils écoutaient dehors par la fenêtre. Ils n'avaient pas le droit de rentrer. Ont-ils bien lu l'évangile? Ont-ils bien lu l'évangile? Mais en Christ, il n'y a plus, de barrière sociale. Il a renversé tout cela, Et puis on pourrait parler encore ni homme ni femme. Là encore, dans la synagogue, les hommes avaient la place privilégiée au sein de la synagogue, et puis il y avait le parvis des femmes. Ça aussi, ça a été révolutionnaire. L'Église est révolutionnaire. C'était... Mettons-nous à la place des Juifs, où il y avait toutes ces barrières, tout était cloisonné déjà entre Juifs, mais entre hommes et femmes, entre maîtres et esclaves. Voilà. Donc, et puis là, l'Évangile, il va tout renverser. C'est violent. C'est violent. Mais c'est une réalité. Et il n'y a plus ni homme ni femme, mais nous ne voulons pas, en tout cas, reconstruire des barrières. Reconstruire des barrières. Et là, parfois, nous sommes forts pour reconstruire ce que Jésus a détruit. Dans Galates chapitre 2, Paul dit, « Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même en transgresseur. C'est par la loi que je suis mort à la loi afin de vivre pour Dieu. » Alors, cette épître aux Galates, je vous invite à la lire, où l'apôtre Paul va remettre vraiment l'accent sur la foi, cette foi qui sauve, et que ce n'est pas par la loi. Donc, il va renverser aussi ce salut par mérite, par le mérite de l'observance de la loi. Et il va reparler de cette vie de foi qui est là. Et bien sûr, les Galates avaient reconstruit ce que la croix avait détruit. Ils s'étaient à nouveau placés sous le joug de la loi, à nouveau placé sous le joug des œuvres méritoires et certaines autres choses. Donc, et l'apôtre Paul dit, mais si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même en transgresseur. Et ça, c'est aussi, j'allais dire, un raisonnement, quelque chose, une forteresse qu'il nous faut vraiment détruire. C'est que parfois, eh bien, il y a des choses que Dieu renverse dans notre vie, mais c'est humain, on veut reconstruire les choses, parce que ce sont nos repères, on a toujours vécu comme cela. Et on aime bien vivre dans quelque chose qui nous sécurise. Et qu'est-ce qui nous sécurise ? C'est les choses dans lesquelles on a toujours vécu. Mais posons-nous la question, est-ce que c'était une bonne chose ? Jéricho a été détruite. Il y avait cette interdiction de reconstruire Jéricho. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont reconstruit Jéricho. Je parlais en introduction de Jésus, là, juste avant Pâques, cette Pâques où Jésus a été crucifié. Il a renversé les tables des commerçants du temple. Mais quand on lit l'évangile selon Jean, on voit que cet épisode se situe au début du ministère de Jésus. Il y a là quelque chose, on pourrait dire, ça cloche, ça va pas. Puisque les autres évangélistes, Matthieu, Marc, Luc, le placent à la fin et Jean le place au début. Ça voudrait dire quoi ? Qu'il y en a eu deux. Il est fort, très fort probable que à deux reprises, Jésus a chassé les vendeurs du temple. Une fois au tout début de son ministère et une fois à la fin. Et au tout début de son ministère, c'était aussi avant la fête de Pâques. Parce que c'était un moment où beaucoup de commerçants venaient, parce que c'était une fête importante dans le calendrier juif. Et là, chacun venait acheter ses animaux. Donc, mais Jésus l'a renversé une première fois, mais ça ne leur a pas suffi. Hein. Ils sont revenus. Hein. Et parfois, il y a des choses que Jésus renverse dans notre vie, mais tout comme Jéricho, tout comme ses commerçants, eh bien, nous revenons, nous rebâtissons les choses, ce que Jésus a renversé, laissons-le par terre. Laissons-le par terre. Et un peu plus loin, dans Galates, au chapitre 4, verset 8, l'apôtre Paul dira « Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments, auxquels, de nouveau, vous voulez vous asservir encore ?» Et là, il leur dira « Vous observez les jours, les mois, les temps, les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. » Le Seigneur les avait délivrés de cela, il avait renversé tout cela, parce qu'ils ont connu le Dieu vivant et vrai, donc ils ont reconnu la futilité et la vanité de ces choses, ils étaient des idolâtres, ils servaient des dieux, et ils observaient les jours, les mois, les temps, en disant qu'il y avait des jours plus importants, des jours sacrés, qu'il y avait, voilà, qu'il fallait observer certaines choses, il y avait les nouvelles lunes qu'il fallait observer, il y avait tout un tas de choses dans le calendrier qu'il fallait observer. Et ils avaient été libérés de cela, parce que ces choses-là amènent en plus beaucoup de superstitions, parce que si vous n'observez pas quelque chose, attention, hein, ça aussi, la superstition, c'est un raisonnement qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Parce que si on n'observe pas quelque chose, qu'est-ce qui pourrait nous arriver ? Oui. Mais Jésus nous a libérés de tout cela. Or, le problème des Galates, c'est qu'ils étaient retournés à tout cela. Ils étaient en train de, à nouveau, s'asservir à ces choses. Et vous savez, c'est très insidieux parce qu'on ne s'en rend pas toujours compte dans notre vie, mais il y a des choses qui se rebâtissent petit à petit, petit à petit. Sans que nous-mêmes, parfois on le voit, on s'en réalise, mais après, évidemment, on est complètement emmuré dans une forteresse. Et il faut qu'à nouveau les choses se renversent. Alors, nous ne voulons pas remettre des barrières là où Jésus les a renversées. Nous ne voulons plus remettre des barrières entre les hommes et les femmes là où Jésus les a renversées. Nous ne voulons plus mettre de séparation entre les races, entre les différences qu'il peut y avoir. Mais nous sommes tous un en Christ. Alléluia. Nous ne voulons plus redresser ces raisonnements qui sont là, ces raisonnements d'incrédulité, de doute. Le doute est un raisonnement aussi. Nous voulons les laisser par terre, ces choses-là, et vivre pleinement dans la foi en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Renverse encore ce qui dans notre vie doit être renversé. Même si ça se fait d'une manière énergique, même si on est secoué, bouleversé, parce que tout est par terre dans notre vie. Mais maintenant, qu'est-ce que tu attends de moi, Seigneur? Maintenant que tout est par terre, montre-moi le chemin à suivre. Que son nom soit glorifié. On va ensemble remercier le Seigneur. Merci Jésus. À ton nom soit toute la gloire, tout l'honneur. Béni soit ton saint nom, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui vraiment renverse ces choses qui doivent être renversées dans notre vie. Nous voulons que ta parole fasse tout son effet. Nous voulons laisser ta parole faire son effet dans notre cœur ainsi que ton esprit. Béni sois-tu, Seigneur, parce que c'est toi qui nous montre le chemin à suivre et nous voulons vraiment te laisser faire dans notre vie. C'est toi qui construis des choses nouvelles dans notre vie, dans l'Église. Seigneur Jésus, nous ne voulons pas nous accrocher ni retourner à ces choses du passé, sachant que c'est toi qui es notre avenir, c'est toi qui es notre espérance, Seigneur Jésus. À toi soit toute la gloire, l'honneur et la puissance, Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur.